Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest hein, sur Radio Immo, l'émission où l'on parle de tout sauf d'immobilier, et ça c'est un peu troublant, vous excuserez ma bafouille. Et pour en parler, pour ce faire, je suis comme d'habitude en compagnie de Philippe Boyer, l'unique, l'irremplaçable. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme?
Parfaitement en forme avec un invité fantastique.
Il va falloir, on va parler géopolitique aujourd'hui.
Dans son dictionnaire amoureux de la géopolitique, Hubert Vidrine, ancien ministre des Affaires étrangères, revient sur le traité de Westphalie signé en 1648. C'est ce texte qui mit fin à deux guerres, rien de moins, la guerre de 30 ans et celle dite de 80 ans opposant les provinces unies révoltées à la monarchie espagnole. Et pour Hubert Vidrine, ce traité serait un moment fondateur des relations internationales avec l'affirmation du principe de souveraineté, l'apparition de nouvelles formes de coopération entre États, bref, la mise en place de presque tous les outils classiques de la diplomatie. Sauf que depuis ce XVIIe siècle et sa diplomatie flamboyante, des mètres cubes d'eau ont coulé sous les ponts des chancelleries. Le monde d'aujourd'hui est marqué par d'innombrables fractures, compétitions aggravées des puissances et singulièrement celles de la Chine et des États-Unis, dégradation environnementale, hacking en tout genre, c'est une évidence que de dire que notre monde se complexifie. Bref, vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui décrypter les défis géopolitiques de notre siècle en compagnie de l'un des meilleurs spécialistes de ces sujets. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Philippe Boyer. Nous sommes ravis et très honorés de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'ouest, un titre d'émission presque taillé pour vous, en tout cas pour la matière qui est la vôtre, la géopolitique. Pour nos auditeurs, vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À ce même micro, nous avions eu d'ailleurs le plaisir d'écouter il y a quelques mois Dominique David, co-directeur du RAMSES, ce rapport annuel sur l'état du monde que votre institut publie chaque mois de septembre. Votre précédent livre, L'affolement du monde, paru en 2019, a été un véritable succès de librairie et je suis persuadé que l'ouvrage qui va être au centre de nos échanges de ce jour, Guerres invisibles, paru chez Talendier, l'est aussi car il se lit véritablement comme un roman. Mais avant que nous ne parlions de géopolitique, d'équilibre entre Asie et États-Unis, de numérique au service de la domination, bref, de tout ce qui fait l'actualité internationale, nous avons coutume d'entamer dans cette émission un court extrait sonore. Et ici, vous allez l'entendre, il va s'agir de renseignements, savoir ce que fait l'autre pour anticiper ses mouvements. Avoir un temps d'avance sur ses adversaires est une règle qui s'impose depuis la nuit des temps. On en reparle dans une minute, le temps d'écouter cet extrait.
Je suis passionné, monseigneur. La passion. Quelle excuse. Quel argument. Que d'acquittement on lui doit. La mienne est dévorante. Je suis à son service tout entier. Et tant que je vivrai. Son nom, Fouché, son nom. Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir.
Vous commencez par ces tiroirs, je suppose.
Acheter la femme qu'il aime. Et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah, quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre. Épouvanté, méconnaissable. Une bougie qui coule
et qui éclaire votre vie.
Alors c'est un passage tiré de l'excellentissime film Le Souper. On aura reconnu ce dialogue ciselé, j'allais dire aux petits oignons, c'est le cas de le dire, entre un Talleyrand, ancien ministre des Affaires extérieures, interprété ici par Claude Rich, et un Fouché, ancien ministre de la Police, ici joué par le regretté Claude Brasseur. Les deux hommes discutant stratégie pour choisir quel souverain pour la France. Thomas Gomard, on a entendu Claude Brasseur, qui jouait Fouché, expliquer son goût jouissif, on l'a compris, pour le renseignement. Dans votre livre, vous consacrez de nombreuses pages au renseignement dans un chapitre notamment intitulé « Dissimuler ». Vous dites, et je vous cite, « L'art de la dissimulation est consubstantiel à l'exercice de la puissance ». J'ai l'impression qu'en matière de renseignement, nous vivons une époque ambiguë, avec du côté des États, qui font valoir, en tout cas facialement, une transparence de façade. Par exemple, la Chine, qui a largement investi les réseaux sociaux et notamment sa chaîne de télévision CGTN. Et puis, ce qui est à la base du renseignement, à savoir la poursuite et le renforcement de l'espionnage sous toutes ses formes, et ce, notamment grâce au numérique. Alors, deux questions pour débuter. Est-ce que ces guerres invisibles, c'est le titre de votre livre, que ce livre « Les États » ne sont pas d'abord et avant tout des guerres du renseignement ? Et deuxième question, on a l'impression que ces guerres invisibles, finalement, n'ont jamais été aussi nombreuses que maintenant.
Alors, sur la première question, je serais tenté de dire il y a un renforcement de l'importance du renseignement, en particulier pour les puissances ou les États qui sont en situation défensive. Et en particulier, quand vous prenez un pays comme la France, ses capacités en matière de renseignement, quand vous comparez ce qu'elles étaient en 1990 lors de la première guerre du Golfe et ce qu'elles sont devenues, vous avez eu un investissement tout à fait massif qui est en fait une manière de compenser, une tentative pour compenser la perte de puissance. Ensuite, l'autre aspect de votre question, c'est effectivement le renseignement à l'ère de la transparence. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui est le plus efficace ? Est-ce que c'est le SVR russe ou est-ce que c'est Google ? Et je pense que ce à quoi nous assistons, c'est en réalité une forme d'interface très, très difficile à comprendre dans le cas chinois, dans le cas russe, un peu moins difficile à comprendre dans le cas américain, entre les plateformes systémiques et ce qui relève des forces armées ou des services de renseignement, ce que j'appelle dans le livre le complexe militaro-numérique. Mm-hmm. Les deux, enfin le complexe militaro-numérique, au fond, reposant sur cette idée d'une extraction des données.
Au service d'eux,
c'est-à-dire que les acteurs privés ont besoin des données accumulées par les puissances publiques pour proposer des services toujours plus précis, plus personnalisés, etc. Et à l'inverse, les autorités publiques ont besoin des capacités d'innovation, d'investissement de ces plateformes systémiques pour elles aussi être capables de conduire des politiques publiques. Donc, si vous voulez, il y a de ce point de vue-là, effectivement, une transformation à mon avis, assez radical en cours, et avec des images peut-être un peu trompeuses. Le succès, par exemple, de la série Le Bureau des Légendes montre l'attrait, au fond, que cet univers encore représente, notamment auprès des jeunes. Et peut-être le risque, c'est de voir dans le renseignement cette main invisible qui aurait toutes les cartes. Alors, je pense que, et c'est aussi la tentative du livre, c'est qu'en réalité, je pense qu'il y a une capacité à se dissimuler qui fait partie de l'attribut de puissance, mais je pense également qu'il y a une capacité à percer les intentions de l'autre, qui ne relève pas forcément des méthodes les plus extrêmes de renseignement, comme celle évoquée par Fouché.
C'est Fouché qui parle
dans l'extrait que vous avez choisi. Et la deuxième question, donc, est-ce qu'on a une multiplication des guerres invisibles ? Si vous voulez, j'ai choisi ce titre pour illustrer le fait que c'est comme un iceberg, en fait. Il y a la partie émergée, la partie immergée, et que la vie internationale, non pas du tout dans une approche complotiste, mais a des sous-jacents. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se voient pas au premier abord, mais qui sous-tendent les rapports entre acteurs. Et donc, j'ai divisé le livre entre la partie visible,
oui, la partie visible.
Et puis la partie invisible, et notamment, effectivement, la capacité de se dissimuler. Et de ce point de vue, je fais un parallèle entre les services de renseignement et les mafias, qui ont pour point commun la clandestinité. Sauf qu'elles ne poursuivent pas, en principe, même s'il y a certaines fois des chevauchements, les mêmes objectifs, puisque, au fond, les services de renseignement dans les systèmes démocratiques comme les nôtres peuvent être présentés comme les détenteurs des intentions véritables de l'État, alors que les mafias ne sont là que pour s'enrichir et servir des intérêts claniques.
Justement, vous écrivez dans votre livre que la géopolitique du XXe siècle a été marquée par le pétrole et le nucléaire, que celle du XXIe siècle va s'organiser autour de la donnée. Vous parliez de Google tout à l'heure. Et cette data, justement, est le fruit d'énormes entreprises privées. Du coup, peut-on dire que les États n'ont plus le monopole de la géopolitique ?
Alors, l'ont-ils jamais eu? C'est-à-dire que si on se replace à l'époque moderne, vous avez la Compagnie des Indes, par exemple, c'était des acteurs privés qui ont joué un rôle tout à fait décisif dans l'organisation du système international. Et la référence au traité de Westphalie, effectivement, montre aussi que les États ont cherché ensuite à créer un cadre dans lequel réguler leurs échanges. Alors, sur votre question, il y a deux aspects. D'abord, il y a une comparaison souvent qui est faite dans la doxa, qui est de dire « Ah, ben, les data, c'est le nouveau pétrole ». Je pense que c'est une comparaison qui est trompeuse parce que les ressources pétrolières, gazières, etc., nous savons qu'elles sont limitées, elles sont finies. On ne sait pas quand viendra la production du dernier baril de pétrole, mais enfin, on sait que ce sont des ressources limitées. Or, la particularité des data, c'est de croître, de continuer à croître sans cesse.
Indéfiniment.
Donc ça, c'est une très grande différence. En revanche, il y a un point commun, c'est qu'on parle dans les deux cas d'extraction. On extrait le pétrole, on extrait le gaz, on le raffine et on extrait la donnée et on la raffine aussi, on la personnalise. Après, il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé en écrivant le livre, c'est en juin 2020, lorsque vous comparez la capitalisation boursière des 7 premières entreprises technologiques mondiales, elle s'élève à 7 200 milliards de dollars. Et quand vous regardez les 7 majors pétrolières, entreprises de l'énergie, elle s'élève à 2 500 milliards de dollars. Bon, donc c'est un delta très important et qui illustre, à mon avis, le changement de main et le fait que nous sommes dans un moment de chevauchement entre une géopolitique du pétrole qu'on suit constamment dans les think tanks comme l'IFRI, parce que c'est un élément extrêmement important, mais qu'on comprend. Dans son fonctionnement et ses sous-jacents. Et une géopolitique des données qui est beaucoup plus nébuleuse et beaucoup plus difficile à percer et qui repose en partie, mais en partie seulement, sur ces complexes militaro-numériques que j'évoquais. Dernier point, dans les 14 entreprises concernées, vous avez une seule entreprise européenne, ce qui est également le signe, au fond, d'une géopolitique et d'une économie politique internationale qui échappe de plus en plus aux Européens et qui se concentre entre Chinois et Américains.
On va en parler exactement maintenant à propos notamment de l'IA. On a souvent parlé de l'intelligence artificielle dans cette émission, mais jamais sous l'angle des relations internationales. Et vous écrivez, vous venez de le rappeler à l'instant, que nous assistons, nous, Européens, à un combat de titans entre les États-Unis et la Chine et qu'à la clé, ce n'est rien de moins que, je vous cite, l'ordonnancement industriel du monde. Vous avez des mots plutôt durs à l'égard de l'Europe. En résumé, nous avons les compétences scientifiques et technologiques, mais nous aurions raté plusieurs trains. Vous dites que l'UE doit apprendre à penser et à agir davantage en termes civilitaires pour aller droit au but. Et sur le sujet de la maîtrise techno de l'IA, est-ce que vous considérez que l'Union européenne a laissé passer trop de trains?
Bon, elle a laissé passer le train des données individuelles. Et que la tentative de réguler ça par le RGPD, par exemple, convient parfaitement aux plateformes systémiques. C'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de temps, l'expertise l'avait compris, mais l'opinion commence à le comprendre avec l'affaire Snowden 2013. Elle a mis beaucoup de temps pour comprendre que ce n'était pas neutre, cette accumulation primitive des données, et que le fait de transférer des données de consommateurs en dehors de son territoire et de les faire traiter en dehors de son territoire avait évidemment des incidences, puisque ces plateformes systémiques, en retour, étaient capables d'élaborer des services auxquels nous sommes plus du tout prêts à renoncer. Bon. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est refermé, qui explique une partie du décrochage européen par rapport aux États-Unis.
Vous dites que ça date de 2013, à peu près ?
Non, je parle de l'affaire Snowden, okay. Si vous voulez, comme élément de prise de conscience que, en fait, le numérique, ce n'est pas uniquement de l'empowerment, ce n'est pas uniquement une doxa poussée par le marketing très, très fort des grands acteurs du numérique, comme l'individualisation la plus poussée, la capacité pour chacun de devenir son propre média, etc. Oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi toute la partie surveillance, contrôle, et qui va s'accentuant. Bon. Sur les données industrielles, je serais moins sévère, parce que pour une raison assez simple, c'est que les Européens disposent d'acteurs industriels capables, à mon sens, d'être dans la compétition internationale. Et ça, c'est assez clairement identifié par la commission actuelle, notamment par le commissaire Breton. Bon. Après, votre question, si vous voulez, c'est plus sur le civilitaire. Et là, effectivement, c'est problématique pour les Européens. C'est-à-dire que je parlais du complexe militaro-numérique. Ce qui se passe, c'est que historiquement, l'innovation vient souvent des appareils militaires pour ensuite trouver des applications civiles.
Or, l'Internet, par exemple.
Voilà, absolument. Les deux racines de l'Internet, c'est la racine libertaire et la racine militaire. Or, on est dans un moment où vous avez un mouvement inverse qui s'observe, c'est-à-dire que ce sont des innovations qui viennent de la sphère, on va dire, civile et qui sont en usage, assimilées très rapidement, plus ou moins rapidement selon leur agilité, leur efficacité, par les appareils militaires. Pour une raison assez simple, c'est que les plateformes systémiques ont aujourd'hui des capacités d'investissement très largement supérieures à celles de la plupart des États. En termes de budget, c'est-à-dire qu'en gros, les GAFAM versent très peu de dividendes, mais réinvestissent très massivement leurs gains. Et donc, vous avez des courbes qui se sont vraiment, séparées entre la capacité à faire de l'investissement de recherche fondamentale ou de recherche appliquée par les États et par ces grandes plateformes. Ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Ça oblige à revoir les modes de financement de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Je ne pense pas du tout que la situation soit désespérée pour les Européens à partir du moment où ils intègrent cette donnée civilitaire et qu'ils reconnaissent l'existence. En France, on a par exemple une BITD, une base industrielle de technologie et de défense, qui, à mon sens, est extrêmement précieuse à préserver. Il y a d'autres éléments comparables en Europe. Mais intellectuellement et en termes stratégiques, c'est beaucoup moins naturel pour des hommes politiques européens de lier les deux que ce que l'on peut observer aux États-Unis et évidemment en Chine.
Alors, vous consacrez un chapitre entier à la question environnementale. Vous dites que la nouvelle donne environnementale structure de plus en plus le conflit géoéconomique et géopolitique entre la Chine et les États-Unis. On a d'ailleurs vu fin avril, il y a quelques jours, l'implication personnelle de Joe Biden en tant que chef d'orchestre de la diplomatie climat lors d'un sommet virtuel sur le climat, précisément. Question très directe, en quoi et comment cette question environnementale structure désormais les relations entre les États ?
Si vous voulez, la grande question, c'est qui contrôle le thermostat mondial ? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que les États-Unis, comme la Chine, subordonnent aujourd'hui leur politique climatique et numérique, je vais revenir sur le lien, à leur rivalité stratégique. Et ça, c'est un problème assez fondamental pour les Européens qui, eux, sont rentrés dans cette discussion sous l'angle bien commun, en fait, comme quelque chose de partagé par l'humanité, et sous l'angle fondamentalement de la coopération, ce qui est un point de vue très important, mais qui, à mon avis, ne répond pas ou ne prend pas suffisamment en compte les évolutions à la fois en Chine et aux États-Unis, qui se traduisent par un investissement sur les solutions de géo-ingénierie et également par le fait que les États-Unis et la Chine représentent réunis plus de 45% des émissions mondiales de CO2, et que donc il y a un côté puissamment structurel, si vous voulez, dans leur capacité à s'entendre ou au contraire à ne pas s'entendre sur ces questions-là. Et évidemment, les Européens, les autres acteurs prennent des initiatives, cherchent à aller dans la logique de décarbonation, etc. Mais s'il n'y a pas d'entente entre Chinois et Américains, et on l'a vu lorsque l'administration Trump était en place, le cours des choses dévie. Bon. Ce qui est aujourd'hui malheureusement assez clair, c'est que les accords de Paris tels qu'ils ont été écrits, c'est-à-dire 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne, semblent très difficiles à atteindre. C'est-à-dire que pour l'atteindre, en fait, il faudrait l'équivalent de ce que nous avons eu pendant le confinement, x2, pendant 10 ans. Et quand on voit l'effet rebond, voilà, et quand on voit l'effet rebond provoqué par la sortie du confinement, c'est assez peu réaliste, malheureusement. Ensuite, à cela s'ajoute une très forte ambiguïté de la Chine, qui à la fois investit très massivement sur les technologies bas carbone, et de manière très construite, très, très rationnelle et très efficace, qui développe un discours de civilisation écologique, mais ce discours va de pair, c'est pour ça que je fais le lien, avec une surveillance technologique très poussée. C'est-à-dire qu'au fond, l'aspect environnemental va être de plus en plus, et à mon avis pas uniquement dans des systèmes autoritaires, un élément de contrôle de la population, à la fois de manière collective et de manière individuelle.
Grâce aux nouvelles technologies.
Voilà. Et en fait, il faut penser les deux simultanément, c'est-à-dire à la fois la civilisation écologique, avec tout le discours qui l'accompagne, et puis l'aspect surveillance par les technologies. Et puis il y a un autre aspect qui est plus connu, mais extrêmement important, c'est le mix énergétique de la Chine, qui reste plus de 60% composé de charbon. Et donc vous avez un pays qui aujourd'hui a 3000 centrales à charbon, c'est-à-dire plus que l'ensemble des centrales à charbon dans le monde, et qui envisage d'en construire ou d'en exporter 2000 dans les 20 ans qui viennent. Bon, donc là, il y a une contradiction assez fondamentale.
Vers quel pays? Vers quel continent?
En Afrique, notamment, ou en Asie du Sud-Est, mais avec un argument assez imparable qui est de dire nous ne renoncerons pas à notre ambition de développement. Nous y renoncerons d'autant moins que vous-même avez, pendant deux siècles, pollué et créé la situation dans laquelle nous sommes. Donc on est quand même sur ces questions-là, non pas dans une approche de bien commun, comme on le voit souvent en Europe, mais de pur rapport de force entre les États-Unis et la Chine.
Encore une question sur l'Europe. À plusieurs reprises, vous n'êtes pas des plus sympathiques ou conciliants avec l'UE, l'Union européenne. On a évoqué tout à l'heure le train de l'IA, mais plus généralement, vous dites, et c'est dans le prologue de votre ouvrage, je vous cite, « En Europe, nous n'avons pas encore suffisamment identifié les affrontements invisibles en cours susceptibles d'affecter directement notre positionnement international. » Et vous rajoutez même « En France, nous préférons les questions sociétales aux relations internationales. » Et en refermant votre ouvrage, je me suis dit qu'il n'était pas bon d'être européen.
Et alors peut-être corriger, parce que je suis convaincu, si vous voulez, la nécessité de la construction européenne par raisonnement sur l'échelle. Et aussi, je pense que quand on pouvait voyager,
ça reviendra.
Voilà, on se rendait bien compte que voilà, il y a quelque chose de spécifique en Europe. Il faut toujours rappeler que l'Europe, c'est 70 ans de paix. Ça semble être quelque chose d'acquis, mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'est aussi ça que le livre explique. C'est que ces guerres invisibles, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas un horizon d'attente. C'est que nous y sommes. Et que les Européens disposent d'atouts. Ils peuvent tout à fait rester dans la compétition, mais doivent aussi être peut-être beaucoup plus lucides sur leur environnement et sur les logiques de puissance qui sont celles de leurs principaux partenaires. La grande difficulté, si vous voulez, de l'Union européenne, c'est que ce n'est pas un projet de puissance. Ça n'a pas été construit pour être une puissance, ça a même été construit pour l'inverse, pour éviter la puissance allemande, fondamentalement, et pour permettre aux vaincus de 40, aux vaincus de 43 et aux vaincus de 45 de se retrouver. Bon. Donc on ne peut pas demander à l'Union européenne d'être ce qu'elle n'est pas fondamentalement. Ayant dit cela, je pense qu'il y a néanmoins une nécessité pour les Européens de comprendre que leur mode de vie est menacé, à la fois parce que ce qu'ils considèrent être caractère universel de leurs valeurs, ces valeurs sont de plus en plus récusées à travers le monde, et puis pour une raison qui tient lieu à leur capacité productive et à leur capacité démographique, c'est-à-dire que la population européenne, c'est 25% de la population mondiale au début du XXe siècle, c'est 7% aujourd'hui. Donc voilà, il y a un effet mécanique, mais il y a aussi un déplacement du centre de gravité du système monde vers l'Asie-Pacifique qui place de plus en plus l'Europe dans une position périphérique. Et ça, c'est beaucoup plus problématique parce que je pense qu'on a une classe politique, je dis ça sans esprit de polémique, mais qui n'a pas du tout intégré la rapidité de cette provincialisation.
Merci Thomas Gomard, merci à vous Philippe, vous restez bien avec nous tous les deux. On va faire une petite pause musicale et on va écouter ce titre d'Alain Bachoun qui s'appelle « La nuit, je mens ». Et je crois que c'est vous Thomas qui l'avez choisi, alors un lien avec la géopolitique ou pas du tout? Vous aimez juste Alain Bachoun?
Aucun lien avec la géopolitique. Quand Philippe Boyer m'a demandé quel morceau je voulais écouter, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit pour des raisons que j'ignore.
Écoutez, le temps d'y réfléchir, on va l'écouter. Alain Bachung, La nuit je mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. Dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
De retour en studio pour la suite de Complètement à l'Ouest. Et aujourd'hui, notre invité avec Philippe Boyer, c'est Thomas Gomard. Il est directeur de l'Institut français des relations internationales.
Alors, difficile de généraliser, mais diriez-vous que les relations entre les États, cette fameuse réalpolitik en tant qu'art subtil d'élaborer des compromis, est-ce que cette réalpolitik a vécu ? J'en veux pour preuve le langage diplomatique qui tend à changer. Le président américain dit publiquement que Poutine est un tueur. Un chercheur français est qualifié de petite frappe par un ambassadeur chinois. J'ai l'impression que les mots habituellement feutrés des diplomates traduisent un changement de ton, un changement de cap.
Alors, il y a deux choses là-dessus. Quand vous relisez, par exemple, les échanges diplomatiques de l'entre-deux-guerres, vous avez une violence du discours
aussi fort.
Aussi forte, oui. Maintenant, il y a un phénomène très intéressant qui est celui que vous décrivez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous avons une sorte de trumpisation de différentes diplomaties et avec un usage, notamment de Twitter. Alors, c'est très frappant dans le cadre de la diplomatie chinoise. Si vous voulez, ce qu'on a observé à l'IFRI, c'est que, comme vous le savez, Twitter et Facebook sont interdits en Chine, mais que vous avez eu une ouverture très importante de comptes Twitter fin 2020 par des diplomates chinois.
En poste à l'étranger.
En poste à l'étranger et qui, effectivement, ne font pas preuve de la
réserve.
La réserve habituelle, pour dire les choses très, très rapidement. Alors, c'est assez problématique parce que, en fait, il y a une notion qui est en train de disparaître avec les réseaux sociaux et que vous mentionniez dans votre première question sur le renseignement, c'est que ce qui est en train de disparaître, c'est aussi la notion de secret diplomatique. Et le secret, de la même manière qu'il y a un secret médical, et un secret de la défense, secret des affaires, etc., c'est un outil très important pour les diplomates, c'est de pouvoir neutraliser une discussion sans qu'elle soit précisément rendue publique pour précisément négocier. Or, les effets recherchés en termes d'annonces semblent effectivement aujourd'hui l'emporter par rapport à des phases de négociation. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des négociations qui se tiennent, mais elles sont beaucoup plus souvent mises en lumière que précédemment. Et en revanche, on voit des diplomaties organiser des campagnes de désinformation, de manipulation de l'information de manière beaucoup plus visible, pour le coup, que précédemment.
Est-ce que la grosse année de crise sanitaire mondiale là, qui vient de s'écouler a fait bouger l'équilibre géopolitique? Et si oui, quelles lignes ont bougé?
Alors très certainement, le terme que nous avons utilisé à l'IFRI pour décrire ça, c'était le terme catalyseur. C'est-à-dire que la crise sanitaire, si vous voulez, a accéléré des forces qui étaient déjà visibles. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai qualifié cette crise de technosanitaire. C'est un mot un peu vilain pour exprimer les causes sanitaires avec des conséquences technologiques. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est l'importance prise pendant cette crise par les plateformes systémiques. C'est-à-dire, imaginons le confinement sans les outils que nous avons tous utilisés, de visioconférence, etc. Donc, il y a eu quelque chose extrêmement important dans l'accélération et l'usage de certains outils technologiques à la faveur de cette crise. Il y a une deuxième chose qui, à mon avis, est très importante, c'est une forme d'inoculation par voie technologique des valeurs asiatiques à l'Occident. Je m'explique. Vous avez des valeurs occidentales qui ont beaucoup insisté sur leur caractère universaliste. Et comme je le disais précédemment, ce caractère universaliste est de plus en plus souvent contesté, récusé. Au fond, ce que le reste du monde reproche aux Occidentaux, aux Européens en particulier, c'est une forme d'hypocrisie fondamentale. Et à l'inverse, vous avez eu un discours sur les valeurs asiatiques qui serait source d'efficacité beaucoup plus grande. Et que de ce point de vue-là, la crise sanitaire a effectivement montré des différences très sensibles entre la manière dont la pandémie a été gérée en Asie au sens large, c'est-à-dire aussi bien à Taïwan, en Corée, au Japon qu'en Chine, et la manière dont elle a été gérée aux États-Unis et en Europe. Et que ce que nous pensions être, au fond, en particulier dans le cas français, hein, c'est toujours beaucoup, félicité notre système hospitalier, le premier système hospitalier du monde. Bah, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple et qu'il y a des pays qui, à bas bruit, ou peut-être pas à bas bruit, mais de manière, parce que nous sommes ignorants et que nous sommes trop provinciaux et pas suffisamment attentifs à ce que font les autres, se préparer depuis des années à ce type de pandémie. Et en ce qui concerne Taïwan, nous avons à l'IFRI la Corée. Voilà, c'est tout à fait frappant de voir que mes homologues en Corée, par exemple, travaillent à des scénarios de pandémie depuis des années. Bon. Or, ce n'était pas un sujet en Europe. C'est un peu comme Tchernobyl, ça s'arrête, si vous voulez, aux frontières. Quoi. Voilà. Bon, bah, on se rend compte que, en fait, non, nous sommes dans un système où tous les êtres se tiennent biologiquement, hein, pour reprendre la fameuse formule de Pierre Teilhard de Chardin. Et en ce sens, je pense qu'il y a un réveil qui est très, très douloureux pour les Européens en particulier, parce que l'opinion est en train de comprendre une forme de déclassement, en réalité, auquel nous assistons.
Alors, un mot sur la cyberguerre qui, de plus en plus, envahit les nouvelles pour relater des attaques qui paralysent des services publics, voire des installations encore plus sensibles. Et vous expliquez dans votre ouvrage que la frontière entre groupes criminels et États, et vous le disiez tout à l'heure, est de plus en plus difficile à tracer. Est-ce que c'est cela le principal défi géopolitique des années qui viennent? Autrement dit, la maîtrise de la technologie, de la cybersécurité?
Alors, l'objectif principal de la Chine et des États-Unis, c'est d'acquérir la suprématie technologique sur l'autre. Que les deux systèmes sont organisés à cette fin. Sur les aspects ensuite de cybersécurité à proprement parler, c'est un aspect parmi d'autres, si vous voulez, de l'ensemble, je dirais, de la gamme technologique, effectivement très important. Parce que nous subissons tous les jours des attaques cyber qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes. On l'a vu notamment sur les hôpitaux, je pense à l'hôpital de Dax que je connais bien par ailleurs, ou de Villefranche-sur-Saône. Alors c'est moins visible effectivement qu'une bombe. Mais ça pose des questions très importantes dans ce qu'on appelle l'attribution. C'est-à-dire à partir de quel moment on considère qu'une attaque cyber, si on est capable de l'attribuer, comment l'interpréter et comment réagir en termes stratégiques. C'est très difficile à faire parce que quand vous attribuez, vous révélez aussi à l'adversaire
vos forces
et votre capacité de compréhension de ce qu'il a fait. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est aussi très délicat parce que vous êtes en France, par exemple, on a un outil qui est très remarquable qui s'appelle l'ANSSI, qui est une agence, qui n'est pas un service de renseignement et qui lui donne la possibilité d'intervenir auprès d'entreprises. Sauf que le directeur de l'ANSSI a eu plusieurs déclarations en ce sens. Aujourd'hui, une bonne part de son activité est absorbée par les demandes de rançon.
Des
entreprises, et que donc il alloue des ressources à cela au détriment d'une préparation à des attaques beaucoup plus sophistiquées venant d'État. Et je pense que la manière de se représenter les choses, c'est comme les pirates et les corsaires, en fait. C'est que dans le cyberespace, vous avez des corsaires qui agissent indirectement
au
nom du roi et d'État. Puis vous avez des pirates, c'est-à-dire vous avez des acteurs dont les motivations peuvent être diverses. Ça peut être l'appât du gain, ça peut être aussi tout simplement la volonté de tester, mais qui font, alors sous différentes formes, hein, les Anonymous par exemple, mais qui ont aussi des impacts extrêmement, extrêmement profonds. Donc la conclusion, c'est que évidemment, il va y avoir, à mon avis, un investissement de plus en plus important pour essayer de monter les protections, mais plus vous montez les protections, plus les assaillants vont chercher à dépasser. Donc c'est le point, c'est que pour les entreprises, ça va devenir, à mon avis, une source de dépenses, d'allocation des ressources et de stress. C'est déjà le cas, mais encore plus importante. Oui.
Une ultime question sur la France. L'épilogue de votre livre est consacré à la France et vu sous l'angle géopolitique. Et vous écrivez que notre pays, je vous cite, est en quête d'une grande stratégie, entendue comme la capacité d'un État à construire un projet de puissance. Que faudrait-il et dans quelle direction aller pour que la France se dote ou se redote d'une grande stratégie? On le verra, ce sera peut-être d'ailleurs un des thèmes de la prochaine élection présidentielle de l'année prochaine.
Je le souhaiterais, mais j'en doute, pour être tout à fait clair. C'est une notion, si vous voulez, qui est très utilisée outre-Manche, outre-Atlantique, en Russie, en Chine, cette notion de grande stratégie. C'est en fait... Là, il y a deux idées. Il y a l'idée d'essayer de se soustraire à l'instantanéité et au calendrier 2022, 2027, etc. Mais de dire, en fait, il faut être capable de réfléchir à une ou deux générations. Et puis ensuite, c'est l'idée selon laquelle il faut se préparer en tout temps, en tout lieu au conflit, en cherchant à l'éviter, mais en se mettant en situation de pouvoir l'emporter s'il advenait. Et donc ça conduit à une notion aussi que j'aborde à la fin du livre et qui, à mon avis, est indispensable pour les Européens en général. C'est la notion de réarmement parce que, en fait, quand on regarde les choses en tendance, les Européens désarment depuis le début des années 70, ont continué à le faire depuis 2001, alors que les autres acteurs réarment très massivement depuis 2001.
Les autres acteurs, qui sont-ils ?
Chine, États-Unis, Inde, Arabie Saoudite, Russie, principalement.
Bien, c'est sur ces mots, il nous faut nous quitter malheureusement. Merci infiniment Thomas Gomard d'avoir été notre boussole pour cette émission très stimulante et éclectique. Avec vous, cette boussole s'est légèrement affolée, mais c'était pour la bonne cause, car ce qui est sûr, c'est que votre connaissance accessible de la géopolitique nous a permis de mieux appréhender les prochains défis géopolitiques. C'est précisément le sous-titre de votre livre « Guerre invisible » paru chez Talendier. C'est un livre qui se lit vraiment comme un thriller et c'est absolument passionnant à lire de toute urgence. Merci beaucoup Johanna et merci à toute l'équipe de Radio Immo qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve donc sous peu pour une nouvelle émission. Et en attendant, cette émission peut être réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Immo et sur tous les players de podcasts. D'ici là, bon vent, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Il est complètement fou, ce mec!
Alors, promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.immo.